Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, l'Amérique latine, quelle perspective pour, on y revient donc pour 2019.
Et oui, puisque ça ne vous a pas échappé, voici deux coïncidences ou une coïncidence de l'actualité. D'un côté, l'investiture du président Bolsonaro, la fin du Brésil multilatéral, peut-être l'éclipse internationale d'un des plus grands pays d'Amérique du Sud. De l'autre, les 60 ans de la révolution castriste à Cuba passés un peu inaperçus. Et peut-être les mêmes incertitudes sur l'avenir à l'image d'une Amérique latine hors jeu sur le plan international. C'est ce que vous écrivez dans un article pour l'IRIS. Jean-Jacques Kurliansky, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès, chercheur donc associé à l'IRIS. Alors cette Amérique latine hors jeu, ce que vous décrivez très bien dans cet article, hors jeu économique, diplomatique, militaire, pour combien de temps on va voir ça et quelle piste de retour en course. Peut-être d'abord les grandes lignes, si on peut dire, une qui n'a pas échappé mais qui pèse quand même beaucoup, c'est un long déclin économique depuis au moins 5 ans, qu'on pourrait dire maîtrisé ou très peu maîtrisé en fait.
Oui, l'Amérique latine a perdu des parts de marché sur le commerce international. Elle a également perdu la maîtrise d'un certain nombre de ressources économiques et de grandes entreprises. L'exemple le plus significatif, c'est la vente en cours de l'entreprise aéronautique Embraer, le troisième avionneur mondial après Boeing et Airbus, au grand concurrent qui est le concurrent nord-américain Boeing. Donc c'est quelque part, c'est un peu le révélateur et l'image du décrochage de l'Amérique latine qui était arrivée sur les radars internationaux, diplomatiques, économiques, culturel depuis l'année, disons, 2000, et qui aujourd'hui revient à la périphérie d'où elle était sortie à ce moment-là.
Et dont Embraer, évalué je crois à 5,25 milliards de dollars par Boeing, était un peu un des symboles effectivement. Alors à quel point ce déclin économique, je le disais, long, hein, 0,5% de croissance sur 5 ans ces dernières années au global, à quel point est-ce qu'il pèse, est-ce qu'il handicape l'avenir de l'Amérique latine, puisqu'on a quand même des États à croissance faible, autour de 2%, Mexique, Brésil, Argentine, pour l'instant faible aussi, et puis quelques pôles de croissance quand même, comme le Panama ou la République dominicaine.
Oui, mais enfin, vous comprendrez bien que le Panama et la République dominicaine sont quand même des États relativement mineurs. Je ne parle pas sur le plan du prestige et du respect qu'on doit à ces peuples et à ces pays, mais les poids lourds de l'Amérique latine, enfin ceux qui en sont les locomotives, effectivement, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, sont dans des... Même le Chili, disons, a perdu une part de son dynamisme économique depuis les débuts de la crise de 2008, disons.
Et alors, quelle raison est-ce que globalement on peut voir à ce déclassement général ? Est-ce que ce serait quelque chose de purement économique, une Amérique latine qui ne serait pas sortie de son modèle néo-extractiviste, la dépendance aux matières premières, ou alors quelque chose qui est plus lié au phénomène des crises politiques à rallonge, là, comme on le voit sur le continent ?
Il y a une opportunité manquée. Donc la période 2011-12 a été une période dorée pour l'Amérique latine pour des raisons qui lui étaient tout à fait extérieures. La bonne tenue sur les marchés internationaux du prix du pétrole, du gaz naturel, des matières premières, des produits agricoles. Tout cela tiré pour l'essentiel par la demande asiatique, essentiellement la demande chinoise, qui est devenue un partenaire essentiel dans les pays d'Amérique latine et qui ne sont plus dans une situation de dépendance unilatérale économique à l'égard des pays occidentaux, essentiellement les États-Unis, mais qui sont actuellement dans une situation de double dépendance à l'égard des États-Unis et un peu moins des pays européens et de plus en plus de la Chine. À partir du moment où la demande chinoise, qui était l'élément nouveau, s'est ralenti, combiné sur la crise de 2008. Les pays latino-américains, les économies, les gouvernements se sont trouvés d'autant plus en difficulté qu'ils n'avaient aucun de ces gouvernements, quelles que soient leurs orientations dans le champ progressiste. Hein. Il y avait évidemment des différences entre Cuba, le Venezuela, l'Uruguay ou le Chili. Aucun n'a développé des modèles alternatifs qui aurait pu permettre de maintenir la croissance et d'assurer la pérennité et la permanence du modèle économique et surtout du modèle de rattrapage social qu'ils avaient entrepris avec les retombées de la montée de leurs exportations.
Et parlant de pérennité économique, une chose que vous notez qui est intéressante aussi, c'est peut-être cette mauvaise conjonction, puisqu'il y a eu des grands scandales de corruption également, qui, dites-vous, ont touché, il se trouve, des industries qu'on peut dire de pointe, à la fois Odebrecht, Petrobras, et puis une entreprise qu'on connaît moins, qui est Techint, dans l'acier en Argentine, c'est ça ?
Oui, alors le problème de la corruption peut être interprété de différentes façons. La corruption, c'est absolument rien de nouveau en Amérique latine. C'est vrai qu'en période de crise, elle est mal supportée. Elle devient la cible d'attaques multiples, de critiques, notamment des partis d'opposition à l'égard de ceux du gouvernement. Et donc c'est devenu un instrument politique géré non pas pour assainir la vie politique et institutionnelle des pays d'Amérique latine, mais pour accélérer les phénomènes d'alternance.
Mais là, c'est ça qui est étonnant. On avait ces grandes entreprises qui étaient au cœur, justement.
Accessoirement, effectivement, le constat que l'on peut faire, c'est que la justice n'a pas simplement ciblé des personnes ayant commis des actes condamnables du point de vue de la morale publique, mais elle a condamné des entreprises. Et donc cette action de la justice et cette action anticorruption est devenue un élément du décrochage économique de l'Amérique latine dans la mesure où il a affaibli un certain nombre des grandes entreprises qui avaient accompagné la période d'essor économique des années 2000-2012.
Oui. Et alors avec cette double dépendance, cet affaissement des champions nationaux, à quel point est-ce qu'on a affaire à des États qui sont dépassés ou pas par justement ces phénomènes pour peut-être symptômes, l'émigration et leur gestion très peu coordonnée depuis un an.
Oui, alors bon, ça c'est un des effets de la crise et de l'absence de prospectives économiques pour modifier les modèles. Donc le constat qui est tout à fait nouveau d'ailleurs en Amérique latine, c'est qu'apparaissent des phénomènes de migration interne extrêmement importants. Certains sont connus, c'est-à-dire le Venezuela. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays pour des raisons non pas politiques, mais des raisons économiques. Moins connus, il y a également les nouvelles migrations de la Caraïbe, et notamment des Haïtiens, des Dominicains. Compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent pour aller en direction du Nord, vers les États-Unis, depuis l'élection du président Donald Trump, ils ont cherché une porte de sortie vers le sud, en particulier vers le Brésil et vers le Chili, ce qui a généré d'ailleurs, ce qui n'existait pas jusqu'ici au Chili, des phénomènes de xénophobie. Il y a également, avec les effets de la crise en Nicaragua, une poussée migratoire relativement mineure à l'échelle de l'Amérique latine, mais qui est très importante à l'échelle d'un petit pays comme le Nicaragua et le Costa Rica, avec là aussi l'apparition de phénomènes xénophobes à l'égard des Nicaraguayens.
Ouais. Et ce même malgré des mesures pour d'autres pays qui ont incité la population à rester ou à revenir en Haïti par exemple, ou même au Venezuela.
Oui, enfin ce sont des mesures mineures, des annonces, donc, oui. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui partent et quelques centaines qui reviennent. Et il y a le problème des migrations d'Amérique centrale vers les États-Unis, donc qui accapare l'attention des nouvelles autorités mexicaines, qui sont en négociation permanente avec les États-Unis en vue de trouver un nouvel accord qui fasse abstraction du mur. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement la question du mur est aujourd'hui un débat interne aux États-Unis entre démocrates et républicains, et qu'il semblerait qu'il y ait un accord entre le nouveau président mexicain qui a pris ses fonctions au mois de décembre, Andrés Manuel López Obrador, et les autorités des États-Unis sur l'imperméabilité de la frontière en échange d'investissements nord-américains, en particulier dans la zone frontalière nord et dans la zone frontalière sud.
Ce qui fait que cette Amérique latine n'est peut-être pas complètement hors radar international, peut-être même plutôt dans le collimateur pour certains, mais vous notez aussi notablement cet affaissement des principales organisations internationales, enfin disons américaines, parmi elles la CELAC ou le Mercosur. À quel point est-ce que c'est un impact direct de l'affaissement de cette gouvernementalité, on pourrait dire, en Amérique latine aujourd'hui?
Il y a eu un effet en domino. À partir du moment où il y a eu une crise économique, il y a une distance qui est prise par les électeurs avec les gouvernements en place. Donc c'était des gouvernements progressistes qui avaient une vision de l'Amérique latine comme un bloc, comme ayant vocation à renforcer une autonomie de chacun par le biais d'alliances collectives. Les nouvelles forces politiques qui sont arrivées au pouvoir dans les différents gouvernements des pays d'Amérique latine ont une approche tout à fait différente, qui est une approche étroitement bilatérale, donc un repli de chacun sur ce qu'il est, avec des relations privilégiées qui sont rebranchées sur les partenaires historiques traditionnels, les États-Unis et l'Europe. Donc la conséquence immédiate, c'est l'affaissement de l'Union des Nations d'Amérique du Sud, donc une structure collective des pays d'Amérique du Sud qui avait été créée en 2008. Elle n'est pas morte, mais elle est en soins intensifs. La Colombie s'en est retirée. Cinq pays ne participent plus aux activités de l'UNASUR. Le Mercosur, donc le marché commun du Sud, qui est plus ancien, est également déstabilisé par l'arrivée au pouvoir d'un président au Brésil, Bolsonaro, qui n'a manifesté aucun intérêt particulier pour le Mercosur. Il ne visitera pas, d'ailleurs, ce ne sera pas sa première visite à l'extérieur du Brésil. Ce qui était la tradition, le partenaire principal du Mercosur du Brésil, qui est l'Argentine, mais il ira au Chili, qui historiquement a toujours pratiqué le bilatéralisme en matière de relations commerciales extérieures.
Oui, et ce bilatéralisme prôné par Jair Bolsonaro, Florian Delorme, va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. En tout cas, merci pour vos explications aujourd'hui. Merci Jean-Jacques Kourlianski, je rappelle, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès, chercheur associé à l'IRIS. L'IRIS, d'ailleurs, dont nous reverrons au numéro 111 de la revue internationale et stratégique consacrée à l'Amérique latine. Vous y avez également contribué, Jean-Jacques Kourlianski. Merci et bonne journée.